Bonjour à tous. Demain, le 3 décembre, aura lieu la Journée internationale des personnes handicapées. Alors comment le secteur culturel s'adapte-t-il à tous les publics? C'est le dossier du Point Culture du jour. Thomas Schlesser, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien de l'art et directeur de la Fondation Hartung Bergmann et vous co-dirigez un colloque qui se tiendra demain et le 4 décembre également. Colloque qui veut interroger les liens entre art et handicap. Alors pour ça, vous partez en fait de l'expérience de Hans Hartung. Qu'est-ce que son amputation a changé à son art ?
Ce qui est complètement incroyable dans le cas de Hartung, c'est que c'est un artiste abstrait qui a donc cette étiquette d'artiste gestuel. Et c'est un artiste qui est né au début du XXe siècle. Il est amputé pendant la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, on peut préciser qu'il est allemand, mais qui combat du côté des alliés. Il combat contre les nazis. Et donc, après la Deuxième Guerre mondiale, quand il a environ 45-50 ans, il va reprendre cet art lyrique, effusif, gestuel, mais avec un corps qui est un corps empêché, entravé. Et il va composer avec cette problématique physique nouvelle. Et il va à la fois, s'en servir et la dépasser.
Alors, on parle de Hartung, mais c'est pas le seul artiste que vous citez dans ce cas-là. On peut penser à Monet, on peut penser à Frida Kahlo, je pense aussi à Jo Bousquet, qui est un poète, qui a été handicapé Première Guerre mondiale et qui, après, a composé ses poèmes depuis son lit. En fait, pourquoi a-t-on tardé à considérer le handicap comme partie prenante de l'histoire de l'art ?
Vous le savez très bien, c'est que le handicap est un enjeu complètement invisibilisé pour des raisons qui sont simples. C'est que c'est quelque chose qui, dans nos sociétés, a fait peur, qui continue de faire peur pour des bonnes et des mauvaises raisons. Et par conséquent, le point de vue hégémonique, il est validiste. Voilà, c'est comme ça. Donc, il faut sortir absolument de cette invisibilisation. C'est l'objectif de ce colloque. Et vous avez raison de le souligner. Il y a plein d'artistes, en fait, qui ont vécu le handicap à des degrés différents et puis avec différentes natures de handicap. Vous citiez Monet avec ses problèmes aux yeux tardifs, mais en fait, des artistes et des artistes peintres qui ont eu des problèmes aux yeux, mais il y en a eu plein. On peut penser, par exemple, à Georgia O'Keeffe qui, à la fin de sa vie, a ses problèmes de cécité, à Jean Hélion, à Edgar Degas. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et puis, en effet, c'est bien aussi de citer l'icône de l'artiste en situation de handicap, qui est Frida Kahlo. On en parlera, il y aura une communication de Circe Esterosa sur la question. Ce qu'il faudra aussi, c'est aller regarder des zones qui sont moins connues. Les artistes en situation de handicap, ce ne sont pas que Hans Hartung, Claude Monet ou Frida Kahlo. Il y en a bien d'autres et on essayera de les aborder dans le cadre de ce colloque.
Alors là, on parlait des artistes, mais il y a aussi une partie de ce colloque qui va être dédiée à la représentation. Est-ce que, selon vous, Thomas Schlesser, l'art prend sa part pour la visibilisation des handicaps dans la société ?
Alors, il est évident que, si vous voulez, dans le champ lui-même de la représentation, par les artistes eux-mêmes, oui, c'est le cas. Quand vous remontez à la Renaissance, pensez à Bruegel, par exemple, vous avez des chefs-d'œuvre absolus qui visibilisent et donnent une intensification de présence, comme disent les historiens de l'art, à des personnes qui sont infirmes, qui ont des altérations physiques. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais en revanche, ce que je crois, c'est que collectivement, à la fois les musées, les historiens de l'art, les médiateurs et médiatrices auraient intérêt à davantage souligner ce que sont ces représentations du handicap. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez au musée d'Orsay ce que j'appelle moi une Joconde du handicap, que j'adore, qui est un tableau fabuleux, qui est un portrait que fait Paul Cézanne de son ami Achille Emperer. Achille Emperer, c'est lui-même un artiste d'ailleurs, mais qui a aujourd'hui un peu disparu parce qu'il n'y a pas une grosse production plastique. Et c'est un homme qui a un handicap osseux, qui est quelque peu chétif, mais Cézanne lui donne en fait l'apparence d'un empereur. Et en fait, cet Achille Emperer, qui était un homme de petite taille, eh bien, en réalité, il lui donne la prestance d'un grand homme. Alors vous voyez, ça c'est absolument formidable. C'est exactement le genre de choses qu'il faut souligner et souligner mille fois pour que non seulement les artistes, mais qui eux, je dirais, font déjà le boulot, mais encore l'histoire de l'art et les musées, prennent leur part dans la visibilisation du handicap.
Merci beaucoup Thomas Schlesser. On mettra bien sûr le programme du colloque sur la page du Point Culture. C'est un colloque ouvert à tous ?
C'est un colloque évidemment ouvert à tous. Il aura lieu à la fois à l'Institut National des Jeunes Aveugles, mais aussi dans le magnifique auditorium de l'INHA. Il est allé sur deux jours sur deux endroits différents. Petit mot à ce sujet, c'est une symbolique je trouve très forte, parce que la Fondation Hartung Bergmann l'organise à la fois dans une institution qui est dédiée aux personnes en situation de handicap et la grande institution de l'histoire de l'art en France. Je trouve qu'on ne pouvait pas faire mieux.
Merci beaucoup Thomas Schlesser.
Merci à vous.
Sarah Russiak, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes coordinatrice d'action culturelle pour les publics du champ social et du handicap à La Villette à Paris. Alors ce sont les 20 ans de la loi handicap. Diriez-vous qu'aujourd'hui un établissement public comme La Villette peut accueillir tous les publics?
Alors en tout cas c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place. C'est-à-dire qu'on propose des adaptations pour tous les âges, toutes les disciplines. Et on essaye à chaque fois d'avoir un dispositif qui permet aux personnes de venir.
Est-ce que vous travaillez au cas par cas avec les gens qui vous demandent de venir à La Villette?
Alors effectivement, on a plusieurs dispositifs parce que chaque type de handicap a des besoins spécifiques. Donc on va proposer des séances relax, des séances en audiodescription, du surtitrage adapté pour les personnes qui sont malentendantes ou des personnes sourdes, de la langue des signes, des gilets vibrants en fait. Il y a tellement de besoins que ça demande à chaque fois un dispositif particulier. Mais la chose qui est intéressante, c'est que ça peut servir aussi au plus grand nombre.
Par exemple?
Par exemple, sur les séances relax, ce sont des séances avec des codes de salle assouplis qui vont permettre à des personnes dont le handicap peut entraîner parfois des comportements inattendus, surprenants, de vivre leurs émotions sans contrainte et jugement. Donc s'ils ont envie d'applaudir, de vocaliser, de rentrer, sortir de la salle et re-rentrer, c'est possible parce que on va désamorcer tout ça en faisant une annonce au public avant le début du spectacle. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de familles qui venaient pour ce cadre plus détendu parce que elles ont moins peur d'un regard désapprobateur ou d'un chute en salle. Et donc elles nous disent, dès que vous faites l'annonce au micro, tout de suite, nous, on se sent beaucoup plus apaisé et c'est pour ça qu'on vient aussi.
Mais c'est-à-dire que ce sont des séances en fait qui ne sont pas réservées à un public de personnes en situation de handicap, mais que ce public-là est mêlé au public habituel de La Villette.
Tout à fait. Nous, ce qu'on cherche à La Villette et dans les établissements culturels, c'est vraiment de décloisonner, de travailler cette question de vivre ensemble. Par exemple, on propose aussi des audiodescriptions en séance scolaire et on le fait avec des enfants en situation de handicap et des enfants valides, tous ensemble dans la salle pour qu'ils puissent partager ce spectacle ensemble. Et ça nous permet aussi de sensibiliser les jeunes publics, dès le plus jeune âge, à ces questions d'adaptation, de dispositifs. Des fois, on a des jeunes qui nous disent « Mais pourquoi ces jeunes ont des gilets vibrants et pas nous ?»
Dernière question, peut-être. J'ai vu aussi que vous proposiez un système de souffleur pour les personnes qui voudraient assister à un spectacle avec quelqu'un en fait qui leur raconte à l'oreille ce qui est en train de se passer, c'est bien ça ?
Effectivement. Donc, en complément, on a soit de l'audiodescription pour les mâles ou non-voyants, avec une personne qui va audiodécrire ce qui se passe sur scène. Mais il y a aussi le soufflage, c'est-à-dire que c'est un accompagnement humain avec une personne qui va venir peut-être chercher la personne dès l'entrée du métro et partager avec elle le spectacle en lui soufflant discrètement dans l'oreille ce qui est en train de se passer sur scène. Donc voilà, il y a ces deux choix-là qui sont possibles.
Bien, merci beaucoup Sarah Russiak. Et peut-être un dernier mot sur ce que vous organisez demain, donc le jour de la journée du handicap en France.
Oui, tout à fait. On organise une grande journée sur la question des droits culturels pour les personnes en situation de handicap. Et on va proposer des restitutions artistiques, une conférence, une table ronde, des ateliers de pratique artistique et aussi tout un village associatif avec les ressources, les innovations en matière d'accessibilité culturelle. Et ce qui est vraiment important dans cette journée, c'est qu'on va donner la voix et l'espace scénique aux personnes qui sont concernées. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye aussi de mettre en place dans notre politique d'accessibilité. C'est que les personnes, elles puissent se sentir représentées et donc leur donner l'espace scénique pour parler du handicap et qu'elles aient toute cette visibilité.
Bien, merci beaucoup, Sarah Russiak.
Je vous remercie.